La maison intelligente du futur, c'est pour aujourd'hui. Dans cet épisode 25, Ellie et François vous disent tout sur Thread, ce nouveau protocole de domotique plus réactif et plus fiable et qui est intégré au HomePod Mini, tiens, avec des infos de première main en provenance d'Yves que vous connaissez sûrement sous le nom d'Elgato. MagSafe et 15 watts, Jean-Christophe a testé la station de recharge de chez Belkin, un socle 2 en 1 pour iPhone 12 et AirPods. Vu d'ailleurs avec les lauriers décernés par la presse américaine à Tim Cook, et puis le tuto audio de la semaine, comment déverrouiller votre iPhone même masqué grâce à votre Apple Watch. Jeudi 11 février 2021, bonjour à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Ici Benjamin Vincent, comme chaque semaine, merci beaucoup d'être au rendez-vous du jeudi avant 20h pour ce nouveau numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, le nouveau podcast hebdo de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Ça fait du bien de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien au chaud pour nous écouter. Ambiance digne de Noël, hein, avec cette neige qui tient. Alors installez-vous bien confortablement et si vous êtes en mouvement, calez bien vos AirPods ou réglez le volume de votre autoradio pour vous mettre dans les meilleures conditions. Salut les copains, salut la team iWeek.
Bonsoir.
Salut Benji.
Bonsoir François, bonsoir tout le monde.
Salut Ellie.
Hello. Alors c'est pas pour vous décourager, hein, et surtout que je sais que bientôt il y a des vacances, mais ici aujourd'hui il a fait un temps incroyable, il faisait plus de 20 degrés avec un soleil à tomber par terre.
Incroyable, incroyable. Oui, parce que tu es à Nice, hein, forcément. Ellie Abitbol, cofondateur du groupe MCS, avec 4 Apple Premium Resellers, notamment à Nice, mais aussi à Cannes et à Aix-en-Provence. Et puis tu es aussi président des 54 APR de France. Bon, du coup, t'étais en maillot de bain aujourd'hui, Ellie, toi, pendant que nous, on se caillait à Paris.
Ben non, mais presque en t-shirt. Hein. C'est... Comme je suis un peu enrhumé comme toi, j'ai quand même pas osé hein, le t-shirt, mais presque. Mais en tout cas, il faisait vraiment beau.
Non, t'as eu bien de la chance parce que dans la moitié nord, je peux te dire qu'on s'est un peu caillé. Salut François, comment ça va chez toi? Il fait aussi froid qu'à Paris?
Il fait aussi froid, je sais pas combien vous aviez aujourd'hui, mais nous là, tout à l'heure, il faisait 0 degré, on a passé la journée entre moins 2 et 2 degrés, donc il fait très très froid. Mais par contre, il y avait un grand grand beau ciel bleu.
Bon, François Le Truédic, enseignant à Vannes, professeur d'informatique et d'audiovisuel à l'Université catholique de l'Ouest-Bretagne-Sud. Bon, toi au moins, t'as pas attrapé la crève, François?
Ah, presque pas, mais voilà, il faut se couvrir, bien évidemment, même en Bretagne. Hein. C'est vrai qu'on est un peu déçus, parce qu'il y a eu, on nous a promis de la neige depuis 2 jours, et à Vannes, il y a un microclimat dans le golfe du Morbihan, qui fait qu'il fait toujours plus doux qu'ailleurs en Bretagne, et on n'a pas eu de neige.
Ah bah c'est incroyable, parce que c'est arrivé par le sud Bretagne hier, la neige, pourtant.
Ouais, mais nous, on n'avait quasiment rien.
Avant-hier soir. Ouais. Et salut Jean-Christophe.
Salut Benjamin, salut les amis, ravi de vous retrouver.
Eh ben pareil, ravi. Je rappelle ton pédigré Jean-Christophe, hein. Jean-Christophe Vigne, juriste, spécialiste des noms de domaine sur Internet, ancien rédacteur notamment pour Univers Mac. Alors Jean-Christophe, on a 2 rendez-vous avec toi aujourd'hui. D'abord, tu as essayé cette nouvelle station de recharge de chez Belkin, juste pour nous donner envie.
Eh ben écoute, c'est super, c'est très efficace et c'est joli même quand on s'en sert pas.
Ah, ce sera tout à l'heure le test de la semaine. Et puis l'actu américaine avec toi dans Vue d'ailleurs, c'est chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, Jean-Christophe. Et cette semaine, il n'y a pas que le 2e procès en destitution de Donald Trump aux États-Unis. L'autre star de la semaine, dans la presse américaine, c'est Apple et c'est Tim Cook. Et c'est pas si fréquent.
Et non, on va se pencher sur Tim Cook, le président en carton.
Ne bouge pas Jean-Christophe, tu restes évidemment avec nous. Le tuto audio de la semaine avec toi François. Alors on vous parlait de mises à jour intéressantes la semaine dernière. Tu vas nous guider aujourd'hui pour résoudre la question du déverrouillage de l'iPhone quand on porte un masque.
Et oui, parce que tu avais eu l'occasion dans un des premiers numéros d'iWeek, le podcast, de nous décrire une démarche pour réussir à enregistrer son visage sur Face ID avec le masque, en utilisant la
C'était
moitié du masque.
C'était un peu galère.
un peu galère. Donc Apple a pensé à nous et a rajouté une petite fonctionnalité que je vais vous présenter en fin d'émission. Je vais jouer mon Benjamin Vincent aujourd'hui et je vais vous faire le tuto audio.
Eh ben super François, et puis on va te retrouver aussi dans un instant avec Ellie pour notre dossier de la semaine sur une petite révolution qui se concrétise dans l'univers de la domotique HomeKit. Jusqu'à présent, elle reposait soit sur le Bluetooth, soit sur le Wi-Fi, et c'était pas complètement satisfaisant, on peut dire. Mais désormais, et c'est notamment le cas si vous avez craqué pour un HomePod mini, vous avez accès à un nouveau protocole, n'est-ce pas Ellie ?
Exactement, et ce nouveau protocole dont on a parlé s'appelle le Thread. Et donc, pour reprendre une expression populaire, comme on dit qu'il n'y a que maille qui maille, nous avons décidé de délier les fils mystérieux du maillage qui s'appelle le threading.
Ça va être passionnant. Voilà le programme, sans oublier les mises à jour de la semaine. Et tout de suite, Pommes, notre petit journal à nous. Pommes, les infos de la semaine qui méritent d'être sauvegardées. Et c'est toi qui commences, Ellie.
Mais oui, je suis allé à la pêche aux bonnes infos. Profitons du beau temps, et j'ai trouvé en vrac des petites choses. La première, Apple aurait, mais attention, aurait au conditionnel. Hein.
Ouais.
Car vous savez que depuis que Hyundai a dit qu'Apple était en discussion, tout s'est arrêté. Donc là, Apple aurait passé une commande très importante auprès d'un Taïwanais très connu qui s'appelle TSMC. Et donc c'est une commande qui porte sur des écrans ultra avancés, des écrans qui n'existent pas aujourd'hui tellement ils sont incroyables, basés sur du micro-LED, c'est même du micro-OLED, et ils seraient destinés à des futurs produits comme par exemple des lunettes. Donc soit des lunettes de réalité augmentée, soit des casques de réalité virtuelle, ça on n'est pas allé jusque là. Mais donc ce projet de lunettes ou de casques semble avancer, son petit bonhomme de chemin, on en a déjà parlé, on va certainement en reparler. Mais là, ça y est, il y a du concret, il y a une commande. Donc, on va passer à une phase tout à fait au conditionnel.
Et donc, à confirmer.
Exactement. Une autre nouvelle cette fois-ci, mais beaucoup plus sérieuse, parce qu'elle vient du célèbre hôpital Mount Sinai, qui est donc un hôpital aux États-Unis extrêmement connu. Et donc, ils ont fait une étude qui s'appelle en interne Warrior Watch. Attention. Et donc, c'est une étude qui a été menée entre avril et septembre sur plusieurs centaines de volontaires travaillant à l'hôpital et à qui on a fourni une Apple Watch. Et donc, les résultats de cette étude, Warrior Watch, ont permis de détecter des symptômes du Covid-19 une semaine avant qu'il soit visible dans des tests PCR. Donc la méthode est basée sur ce qu'on appelle le HRV, Heart Rate Variable, donc variation de rythme cardiaque, associé à d'autres examens sur des signes comme l'odorat, le goût, etc. Mais en fait, quasiment, ils ont eu un succès, bon c'est plusieurs centaines, c'est pas plusieurs milliers, mais ils ont quasiment fait un sans faute, et donc ils arrivent à avoir jusqu'à une semaine d'avance, donc des signes très 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 précoce de Covid-19. Donc parce qu'il semblerait, d'après l'étude, elle est assez longue, hein, que il y a des petites altérations du système nerveux et du rythme cardiaque très très tôt, dès qu'on a été en contact, et donc on arrive à les détecter pour l'instant. Donc comme ils ne veulent pas, parce que c'est un hôpital public, etc. Bon, ils ne veulent pas dire que ça ne marche que sur une Apple Watch, même si pour l'instant c'est le cas. Donc, ils en sont maintenant à augmenter le nombre de testeurs et à essayer de voir s'ils trouvent une autre montre connectée sur le marché qui marcherait aussi et qui détecterait, qui serait aussi fine au niveau des capteurs qu'une Apple Watch. Moi, je dis bonne chance. Mais bon. Tout ceci pour dire, encore une fois, ma phrase clé dès qu'on parle d'Apple Watch, c'est une montre qui mérite d'être remboursé par la sécurité sociale. Vraiment.
C'est vrai. Ça va devenir effectivement le cas.
Et puis, toute petite info que je vous livre, parce que c'est mon devoir de vous donner des infos, même quand elles me font un peu mal. Donc, un de nos accessoristes préférés, qui s'appelle Satechi, qui est très très connu, qui fait des tas de choses hein, pour iPhone, vient de présenter un chargeur double qui est minuscule en fait. Ça a la taille d'une Apple Watch avec un petit connecteur USB-C. Et comme c'est de l'USB-C, on peut le placer d'un côté ou de l'autre, ça marche dans les deux cas. Quand on le met côté pile, ça permet de charger une Apple Watch. Quand on le met côté face, ça permet de charger des AirPods. Pas les deux en même temps, parce que sinon il y en a un des deux qui tombe. Hein. C'est vu que il est sur le côté. Mais c'est une super idée parce qu'il est tout petit, ça a la taille d'une watch. Donc on peut le mettre dans une poche, on peut le mettre n'importe où, dans un petit sac de voyage. Ça vaut pas très cher, moins de $50, mais c'est une exclusivité Apple Store. Donc il n'y a qu'Apple qui le vend. Je pense que comme d'habitude, c'est une exclusivité de 3 mois. Ce qui me permet de dire, fourré, comme d'hab, mais bon, on va patienter.
Je pensais pas que t'allais le dire à l'antenne, Ellie. Tu vois, j'avais prévu de rebondir dessus, mais non, t'as assumé ce que t'avais mis dans le conducteur. Bravo.
Il l'a pas dit, hein. Officiellement, il l'a pas dit. Hein.
Non, il l'a pas dit. Voilà, c'était mes petites infos et je pense que Benjamin, tu vas compléter un peu avec les autres infos POMES qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder.
Merci Ellie, je reprends la main avec ces infos ultra fraîches. On parlera des mises à jour de la semaine tout à l'heure, mais déjà une première info à propos de la dernière bêta d'iOS 14.5. Apple fait un pas supplémentaire pour garantir la protection de vos informations personnelles. Quand vous faites une recherche dans Safari, Apple s'appuie en partie sur un service de Google pour déterminer si le site auquel vous voulez accéder est un vrai site légitime ou pas. Alors jusqu'à maintenant, cette requête était cryptée pour un premier niveau de protection. Désormais, votre requête transite d'abord par les serveurs d'Apple, où elle est épurée pour enlever un certain nombre de données qui peuvent servir à vous identifier, comme votre adresse IP qui ne sera donc plus visible désormais par Google. La surveillance du diabète par l'Apple Watch, la rumeur tourne depuis plusieurs semaines et le dépôt d'un nouveau brevet et de 3 brevets associés vient la conforter. Apple utiliserait une impulsion électromagnétique à la fréquence d'un térahertz, beaucoup plus précise qu'une source lumineuse, pour suivre le taux de glucose dans le sang, sans avoir besoin de se piquer le doigt pour recueillir une goutte de ce fameux sang. Apple travaillerait sur cette technologie depuis déjà plusieurs années. Et puis 6 mois d'Apple Music totalement gratuit pour les étudiants américains, canadiens et japonais. Autrement dit, c'est 2 fois plus que les 3 mois d'essai habituels. Au-delà, ce sera 4,99€ par mois. C'est d'ailleurs le tarif étudiant en euros auquel vous avez accès en France via le site Unidez. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. iWeek, la semaine Apple, est disponible sur toutes les meilleures plateformes. Pour nous soutenir, une seule adresse, patreon.com/iWeek. Merci à la quarantaine de contributeurs fidèles qui sont à nos côtés pour nous aider à supporter les coûts de fabrication et de diffusion d'iWeek et à le développer. Et puis suivez-nous sur Twitter, @iWeekNews. On est à votre écoute tout au long de la semaine avec le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Dans un instant, la révolution de la domotique avec le protocole Thread et des infos qu'Eli a récoltées chez Yves, plus connu sous son ancien nom, Delgato. Bienvenue dès aujourd'hui dans la maison intelligente du futur. Ok, c'est un peu spectaculaire comme approche, mais c'est ce qu'on peut lire sur la page d'accueil d'Yves. Yves, alors pas YVES, hein. Ça c'est Yves, le copain du bistrot d'en bas. Non, Yves, c'est EVE.
C'est le prénom de mon père, s'il te plaît, donc c'est ouais. Ce que tu dis.
Ou le prénom du papa de François. Non, le Yves dont on parle, c'est un Yves en anglais, donc ça s'écrit EVE. Et si vous voulez aller sur cette page d'accueil, EVEHOME, yveshome.com. Ellie, je compte sur toi hein, pour nous convaincre de la révolution que représente ce nouveau protocole. L'air de rien, ben, on en a déjà chez nous si on a acheté un HomePod mini depuis Noël.
Exactement. Et en fait, c'est une info dont on avait parlé parce que le HomePod mini utilise ce protocole dit Thread de maillage. Mais on ne savait pas à quel point c'était important. Et donc, hier, j'ai eu une conversation passionnante avec le directeur de chez, justement, Yves, Et il m'a expliqué des tas de choses, évidemment, sur la gamme de produits, surtout sur la philosophie de la société, qui est très, très importante. Ils sont très, très proches d'Apple, je vais vous expliquer ça. Et surtout sur le thread, parce que c'est quelque chose qui, lui, le passionne. Et lui, il considère que le HomePod Mini a été probablement l'annonce la plus importante de l'année 2020. Parce que c'est un produit de mass market.
Carrément.
Oui. Donc, lui, il dit... Réfléchissez, rappelez-vous, dans la keynote, il y a eu l'iPhone 12 et le HomePod Mini. C'était quasiment presque au même niveau. Et donc, eux se sont lancés comme des fous sur ce protocole. Je pense qu'ils avaient déjà un tout petit peu d'avance, hein, vu leur relation avec Apple. Et quand il m'a expliqué tout ce que ça fait, donc là je vais vous faire un survol rapide hein, du protocole, parce que je n'ai pas tous les documents, je lui ai demandé de m'envoyer ce que lui m'a montré, on était en Skype, hein, donc sur son ordinateur, et il y a une présentation extrêmement détaillée de Thread, et je pense qu'il devait valider, comme c'est un truc, ils sont développeurs et que la moitié des infos viennent d'Apple, je pense qu'ils devaient valider avec Apple ou avec leur service juridique qu'ils avaient le droit de qu'on le montre ou qu'on en parle à l'antenne des tout petits détails, mais j'ai quand même réussi à avoir le survol. Parce qu'en fait, Thread, c'est pas si simple que ça, c'est pas on met deux HomePod mini souvent entre eux et puis ça étend la portée du réseau. Bon, ok, ça c'est facile. Mais en fait, dans Thread, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des routeurs de bord, des routeurs principaux, des nœuds essentiels, des nœuds intermédiaires. Et tout ça, ça fonctionne comme... C'est de la magie. Mais je vais vous montrer un petit schéma. Vous allez voir, c'est absolument magique.
Un schéma que vous allez voir si vous êtes abonné, si vous êtes un soutien Patreon avec accès à la version vidéo de ce podcast. Et donc, allez-y. Soutenez-nous et profitez de la version vidéo.
Et oui, mais sinon je vais vous le décrire quand même. Je vais essayer, oui. je vais faire de mon mieux. Donc pour vous parler de Eve, attention, hein, donc Eve, on va dire Eve pour éviter de vexer François. Donc Eve. Et alors attention, Eve, je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Tout de suite dans votre tête, vous voyez une jeune fille blonde en train de croquer une pomme et d'ailleurs fort peu vêtue. Eh bien, pas du tout. D'abord, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'elle croque une pomme. Donc, évidemment, lien avec Apple tout de suite. Hein, vous avez compris. Je ne vous fais pas un dessin. Mais c'est pas ça du tout. Parce que, bon, vous rappelez ce qui s'est passé. Hein, donc, elle croque une pomme, on se fait virer du paradis. Du coup, on est obligé de bosser. Et en plus, on nous envoie des virus. Donc, moi, je peux te dire qu'elle aurait mieux fait de ne pas la croquer, la pomme. Hein, mais on ne va pas refaire l'histoire. Donc, pour l'histoire... Je vais vous parler d'une société qui existe depuis fort longtemps et comme a dit tout à l'heure Benjamin, cette société s'appelle Elgato. Elgato est une société allemande en fait, hein, qui faisait des petits tuners pour les Mac, pour les portables, des petits tuners USB qui permettaient d'abord de recevoir la télé avec une prise antenne, hein, puis ensuite de recevoir la TNT et puis... ils ont même fabriqué des produits assez sympas qui permettaient de récupérer des signaux vidéo. Je ne sais pas si tu t'en es servi, Benjamin,
oui,
ou François peut-être. On mettait un signal vidéo, donc composite ou S-vidéo, pour ceux qui savent ce que c'est. Et on récupérait en fait un flux numérique qu'on pouvait utiliser dans iMovie ou dans Final Cut ou autre chose. Moi, ça m'a permis de récupérer des centaines d'heures d'enregistrement vidéo analogique. Pour ne pas les perdre. Hein. Donc, c'est un produit que je garde encore hein, et qui est vraiment très utile.
C'est vrai.
Et puis, bon, ils avaient une appli qui s'appelle ITV et qui était extraordinaire. Tout le monde utilisait ça parce qu'on changeait de chaîne, on enregistrait, on programmait. C'était super facile à utiliser. Voilà. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est que dès que on a commencé à voir la domotique, hein, on avait vu apparaître des lampes Hue. C'était un des premiers produits qui était sorti. Eux, ils avaient sorti des lampes, après, il y avait eu des prises connectées. Tout ça n'était pas HomeKit, hein, c'était juste de la domotique avec une app, comme on savait le faire avant. C'était basé sur du Bluetooth. Et donc, tous ces produits-là étaient regroupés sous une marque qui s'appelle toujours, donc, Eve. Et dès que Apple a commencé à parler HomeKit, eux, ils se sont dit, nous, de toute façon, nos produits, ils marchent sur la plateforme Apple ou sur la plateforme Apple. Donc, du coup, ça va marcher sur HomeKit. Et immédiatement, ils se sont lancés. D'ailleurs, l'application Eve, qui permet de les piloter, pendant pas mal de temps, était même plus complète que celle d'Apple, qui s'est beaucoup améliorée depuis, hein, bien sûr. Mais il y a plein d'utilisateurs que je connais qui utilisaient Eve plutôt que l'application Home, parce qu'il était plus facile à utiliser, il avait plus d'options, etc. Bon, tout ça, c'est réglé. Mais d'ailleurs, l'appli... coïncidence, a été mise à jour aujourd'hui. Il y a une nouvelle version avec plein de petites nouveautés que je vous conseille de faire. Elle est vraiment bien faite. Elle est très bien adaptée, évidemment, au produit Eve, parce qu'en particulier, une prise connectée qui ressemble à toutes les autres prises connectées du marché, sauf que la leur vous donne la consommation en temps réel. Donc, et vous pouvez faire des scénarios basés sur de la consommation ou pas. Donc c'est toujours le petit plus, on va en parler dans les produits tout à l'heure avec François, mais ils font vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, plein de développeurs se plaignaient au tout début de HomeKit, et on en a parlé, du fait qu'il fallait une puce dédiée. Vous vous rappelez que c'est ce qui a fait que plein de gens se sont tournés vers les autres solutions qui étaient plus simples. Et bien HomeKit et Eve, ils avaient trouvé une solution, ils avaient fait un kit de développement qui s'appelle Eve Core, qui est d'ailleurs toujours disponible sur leur site, hein. Vous pouvez voir dans le bas de page si vous allez sur leur site. Et c'est un petit circuit intégré contenant la puce Apple et des API, et donc ils fournissaient ça clé en main aux développeurs en disant « Vous n'avez pas envie de vous payer une recherche et développement pour être juste compatible HomeKit ?» Vous achetez, je ne sais pas dans quelles conditions, hein, notre circuit Eve Core, et directement, vous êtes compatible HomeKit. Vous connectez les API à vos appareils et vous êtes compatibles. Et du coup, ça les avait rendus extrêmement populaires auprès de tous les développeurs. Dès qu'ils ont commencé à entendre parler de Thread, je vous explique, hein, donc, ils ont plongé là-dedans vraiment, vraiment à fond. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de corriger le firmware de tous leurs produits ou de sortir des nouvelles versions de leurs produits. Mais le but, c'est qu'ils soient entièrement compatibles Thread. Et d'ailleurs, comme ils ne sont pas modestes, hein, puisqu'ils ont dit « Bienvenue dans la maison du futur », comme tu as dit tout à l'heure, eux, ils disent clairement « Nous avons la plus vaste collection de produits Thread au monde ». Voilà. Comme ça, ils se posent.
Direct.
Et donc, on va parler avec François de la gamme, puisque lui, il la connaissait déjà un peu. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis retourné sur le site, je n'étais pas allé depuis un petit moment, c'est, on se croirait chez Apple, en fait. C'est très joli, c'est très bien fait. Dès la home page, d'ailleurs, la home page, il présente un HomePod mini. Hein, donc, il dit HomePod mini plus nos produits, c'est le mariage idéal. Donc, et rien ne se fait sans HomePod mini d'ailleurs, hein, pour le Thread, hein, pour l'instant. Et donc, ils disent que c'est indispensable d'avoir un ou plusieurs HomePod mini dans la maison. Et donc, leur philosophie, elle est basée sur trois points. La première, c'est l'écosystème, qu'on va en parler. La deuxième, c'est le Thread. C'est vraiment un des trois piliers de Eve. Et le troisième, qui tient évidemment très, très, très chaud au cœur d'Apple, c'est la sécurité des données. Alors, bon, on va aller rapidement sur l'écosystème pour que vous compreniez. L'écosystème, c'est extrêmement simple, hein. Donc, quand il parle d'écosystème, pourquoi Yves ? Tout simplement parce que l'écosystème, ils disent, nous, on veut que ça soit aussi simple à utiliser qu'un produit Apple. Donc, ça veut dire qu'on veut qu'un produit Yves s'appare en un clic. Donc, en un clic ou en un scan de QR code HomeKit, pardon. De QR code HomeKit. D'accord. Donc, il faut que ça soit super rapide. Ensuite, il faut que ce soit totalement sûr. Donc, tout est chiffré directement de A à Z. Et surtout, leur système, ils disent, nous, on n'a pas de cloud. Ça n'existe pas chez nous, ça existe chez la plupart des autres. Nous, il n'y a pas de cloud. Ça veut dire que les données circulent entre notre appareil et votre iPhone ou votre iPad. Point, c'est tout. Si ça sort de la maison, c'est que vous passez par un concentrateur Apple et c'est eux qui gèrent la sécurité. Nous, on ne va nulle part. On s'authentifie nulle part. Donc, tout reste chez vous. Donc, ça, c'est c'est vraiment un truc où ils insistent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est plutôt bien.
C'est donc quand même à l'inverse de la tendance depuis le début de tous ces produits de sécurité, notamment, etc.
Mais oui, et en plus, ils vont même jusqu'à dire que les produits qui maintenant sont bi-réseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans tous les câbles Bluetooth, mais certains sont maintenant Wi-Fi aussi, et Thread, puisque c'est tout ce mix là-dedans, ils disent de toute façon, on garde le Bluetooth, parce que déjà, on l'a développé, on va pas juste dire, bah, on met plus de Bluetooth, ça nous permet d'économiser quelques centimes dans le produit, parce qu'ils disent, rendez-vous compte que si vous avez une panne, il ne faut pas que vous perdiez votre éclairage, vos prises, etc. Donc, le Bluetooth marchera toujours entre votre téléphone et notre appareil, pour peu qu'il y ait du courant, bien entendu. Hein. Mais ça veut dire que panne totale d'ADSL, la plupart des produits, ça remonte dans le cloud. S'il n'y a pas d'ADSL, moi, ma maison, elle ne domotique pas. Hein. Je peux carrément rien faire parce que le système MyFox dont on avait parlé est 100% cloud. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'ADSL, il n'y a pas de domotique. Et ça, c'est un gros problème. Donc, voilà. Donc, venons-en au Thread et ensuite, on va parler des produits. Puisque justement lesquels sont Thread ou pas et quel est l'intérêt de ces produits Thread. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit partage d'écran, comme ça tout le monde voit la même chose et je vous explique un peu ce qu'on voit. Donc, on va venir ici, donc, sur une page qui vous explique ce que c'est que Thread. Et donc, bienvenue dans la maison intelligente du futur. Donc, pour ceux qui voient la version vidéo, vous avez le petit logo qui s'appelle Built on Thread, qui est un petit logo avec une maille. Et donc, l'explication est très simple. Quand vous avez dans une maison des appareils qui sont éloignés, par exemple, vous avez votre HomePod qui est au rez-de-chaussée, mais vous avez un chauffage qui est au premier étage ou dans les combles, et puis vous avez un... évidemment, ils parlent que de leurs produits hein, dans la démonstration. Vous avez un système d'arrosage automatique qui est dans le jardin et qui est un peu loin. Ben, si ces appareils sont trop loin, ben, ils ne communiquent pas entre eux. Et ça a été un gros problème. À l'époque du Bluetooth, c'était vraiment un gros problème. Avec le Wi-Fi, ça va mieux. Mais même dans des grandes maisons, il faut des répéteurs pour le Wi-Fi. Des fois, quand c'est des produits domotiques, ben, les répéteurs, ils marchent pas forcément. Et donc, vous avez une petite animation qui est très jolie, qui vous explique que avant, si je recule pour vous la montrer à nouveau, les appareils envoyaient des signaux, mais ils ne se voyaient pas. Mais dès que vous mettez au milieu un produit maillé, donc là, ils montrent simplement des prises EVE, Energy, eh ben, tout se met à marcher puisque le HomePod qui n'arrivait pas à joindre l'arrosage du jardin ou le chauffage de l'étage a trouvé une prise au milieu qui elle sert de répéteur de maillage et ça lui permet de communiquer avec les accessoires. Donc le système est vraiment assez facile et donc on n'a pas besoin d'une passerelle quelconque genre Akara ou genre Legrand ou etc. Les accessoires Thread communiquent absolument tous entre eux et ce grâce à un protocole. Et c'est assez rigolo parce que le protocole s'appelle CHIPS. Est-ce que vous connaissiez CHIPS?
Je connaissais la série américaine avec les policiers à moto, mais...
Oui, non, mais là, en fait, la technologie s'appelle CHIP. Et CHIP n'est pas cette chose que vous mettez dans la bouche pour l'apéro. Pas du tout.
Ah oui, d'accord.
Donc là, la CHIP, parce que c'est la CHIP, c'est un standard. Et en fait, mais pourquoi je dis là, c'est parce que c'est une association. Et l'association, c'est Connected Home over IP. Donc, Connected Home over, ils l'ont oublié, IP. Donc, la maison connectée à travers l'IP, donc une adresse IP. Donc, et c'est grâce à cette association, attention, c'est une association où il y a énormément de gens. Hein, donc, et c'est grâce à ça que vous êtes paré effectivement pour l'avenir. Alors, pour parler de Thread, qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, c'est que il n'y a pas de maître et d'esclave. Le réseau s'auto-détecte, définit des priorités. Évidemment, il va dire ben dans la configuration actuelle, mon routeur, ce qu'ils appellent eux le routeur ou l'accessoire principal, c'est le HomePod mini puisque lui communique avec le reste de l'écosystème Apple. Et ensuite, je vais définir qu'il y a un élément principal et des éléments secondaires. Mais que se passe-t-il si l'élément principal tombe en panne ? Ou vous le débranchez ?
Automatiquement,
le réseau s'auto-configure. Parce qu'en fait, ils ont défini lors de la première analyse du réseau, donc ça c'est Apple, hein, et donc tous les gens qui utilisent ce protocole, qu'il n'y a pas de maître esclave, qu'il y a eu à un moment donné une définition de priorité, mais un appareil qui a été, donc un nœud du réseau qui a été défini comme étant secondaire, c'est qu'il peut devenir principal en cas de panne de l'accessoire qui était prévu. Et c'est en cascade. Il peut y en avoir deux qui sautent, et ben le troisième deviendra principal. Évidemment, si à un moment donné, si tout saute, ça ne marche plus. Mais en tout cas, il est super ultra redondant. Le chemin qui va d'un appareil à l'autre et qui étend le maillage peut basculer instantanément en passant par un autre appareil si celui qui servait à mailler justement n'est pas disponible. Donc plus il y a d'appareils, plus le réseau thread est fonctionnel. Et donc vous voyez, donc eux se basent sur le fait qu'on utilise du Wi-Fi mais qu'on utilise aussi du Bluetooth. Thread étant un protocole qui permet de faire l'agrégation de tout ça. Et en plus, Thread est multi-protocole, c'est-à-dire que non seulement il fonctionne aujourd'hui donc en Bluetooth et Wi-Fi, mais il va fonctionner avec des protocoles comme le Zigbee, qui est en particulier utilisé par Hue, mais des tas d'autres. Et il va pouvoir être utilisé par les autres protocoles domotiques à partir du moment où ils intègrent justement cette alliance chip. Donc ça veut dire que à partir du moment où tout le monde sera entre guillemets compatible, ben tout ça va fonctionner, tout ça va être maillable, tout ça va être vraiment vraiment pratique. Alors la stratégie qu'utilise Yves est de dire que principalement au départ, comment est-ce que vous faites pour étendre facilement un réseau maillé? Ben, ils disent avec des prises, pour deux raisons. Parce que les prises, vous pouvez en mettre absolument un peu partout dans la maison.
Qu'est-ce que tu appelles des prises ?
Des prises intelligentes, comme celle qu'a montré François, c'est-à-dire quelque chose que vous branchez au mur, et dessus, vous branchez n'importe quel appareil que vous voulez piloter. Donc, juste une prise. Une prise intelligente. L'intérêt de ces prises-là, donc eux, ça s'appelle des Eve Energy, et il y en a plusieurs, on le verra tout à l'heure, c'est qu'elles sont pas très chères. Donc, c'est des prises qui sont à 34 €, si je me rappelle bien. On va regarder tout à l'heure, mais une trentaine d'euros. Donc, un peu plus cher, évidemment, que ce qu'on a vu chez Meros ou chez Akara. Mais un certain nombre d'avantages, parce que pour un tout petit peu plus d'argent, et je dis ça parce que j'ai eu des questions suite à notre présentation Meros de la semaine dernière, d'auditeurs qui nous ont dit « Ah ben c'est très intéressant, je pensais justement m'équiper en domotique à la maison, je vais le faire. » Et donc j'avais répondu « C'est parfait, attendez un tout petit peu, on a encore des choses à vous dire, comme ça vous pourrez choisir entre est-ce que j'ai besoin de l'accessoire le moins cher ?» Est-ce que j'ai besoin d'un accessoire de milieu de gamme un peu plus cher mais plus complet, ou est-ce que j'ai besoin d'un accessoire haut de gamme beaucoup plus complet mais beaucoup plus cher? Donc là, c'est une deuxième alternative. Celle-là, je la place plutôt en milieu de gamme, parce que cette prise-là, donc à 35 €, elle fait la même chose que l'autre, c'est-à-dire qu'on dit on-off, hein, donc on dit Siri allume, Siri éteint, donc ou on utilise l'application maison, on clique, ça allume, ça éteint. Donc c'est bon, évidemment, Siri vient de me répondre sur 3 appareils, hein, comme d'habitude. Voilà, il vient de me dire que j'ai 19 accessoires connectés. Bon.
C'est tout ?
Je sais, mais tout ne doit pas être en marche. Hein. Je sais, je suis petit joueur pour l'instant, mais j'ai débranché un certain nombre de choses. Donc ces prises-là vous donne la consommation d'énergie, ce que ne donne pas généralement un produit d'entrée de gamme. Donc, c'est plutôt bien. Et ces prises-là sont des nœuds thread. Donc, ça veut dire que même si un HomePod mini n'est pas forcément très cher, on en a parlé, c'est plus facile de mettre une prise dans chaque pièce que de mettre un HomePod mini dans chaque pièce. Une petite différence de prix. Sauf si vous voulez de la musique dans chaque pièce, hein, dans lequel cas, les HomePods sont très bien. Donc, c'est pour ça que leur priorité a été de mettre ça dans les prises. Et ensuite, ils l'ont mis dans des détecteurs. Vous savez, les petits détecteurs qu'on colle sur une porte ou sur une fenêtre et qui détectent une intrusion. Pourquoi ? Bah, parce que par définition, si vous voulez couvrir votre maison et que vous en mettez un à chaque porte ou à chaque fenêtre, forcément, vous avez un réseau maillé très étendu, puisque tout n'est pas concentré autour de la box dans le salon. Vous en avez forcément un peu partout. Et donc, ça sera complété par les produits au fur et à mesure. Donc, après, il y a des petites explications que les curieux pourront voir. Donc, qu'est-ce que c'est que la norme CHIP, Connect Home Over IP ?
Et donc, vous voyez que... Oui. Les prises intelligentes, il faut que ce soit des prises de chez Eve ou ça peut être une autre marque ?
Non, celles-là sont des prises Eve parce que c'est elles qui sont Thread. Si on met une prise d'une autre marque, évidemment, elle va marcher dans HomeKit, mais elle n'étendra pas le réseau.
Mais est-ce qu'il y a d'autres marques qui font du Thread aujourd'hui ?
Pour l'instant, en prise, à ma connaissance, non.
D'accord.
Mais c'est pour ça que là, c'est la nouveauté. Hein. Le but à terme, c'est que je pense que la plupart des gens qui veulent être dans le marché Apple vont vraiment vouloir utiliser Thread parce que ça semble être une norme un tout petit peu qui va s'imposer d'elle-même. Juste un mot et après on va revenir au produit. Les gens qui ont signé cet accord CHIP et donc qui vont utiliser Thread, vous avez Amazon, donc déjà c'est pas rien, Apple, Google, donc quand même les trois grands, vous avez Zigbee. Donc Zigbee, c'est une alliance qui regroupe déjà plein d'accessoires qui font de la domotique, hein, mais et qui fonctionnent sous le protocole Zigbee. Donc déjà rien qu'avec eux, ça fait déjà pas mal de choses.
Ça fait du lourd déjà.
Voilà. Et donc maintenant, on va peut-être parler des produits. Et donc je vais passer la parole à François.
François.
Je vais vous faire un petit tour d'horizon des produits qui sont proposés par. Je vais dire Eve, parce que je ne vais pas réussir à dire.
Ouais.
Non, je suis désolé.
Ouais, très bien.
Donc, en fait, leur gamme est articulée autour de 4 pôles principaux, pour être très précis.
Ouais.
Alors, il y a des produits qu'on retrouve sur les 4 pôles, en fait. Il y a un produit qui est. Eli, tu en as parlé, le module qui s'appelle Eve Extend, qui permet en fait d'étendre la portée Bluetooth de vos périphériques connectés. Donc ça, c'est surtout valable pour les anciens produits, comme Eli vient de l'expliquer. Avec la technologie Thread, le problème ne se pose plus dans la mesure où tous les périphériques en fait étendent en fait chacun la portée du produit. Il y en a un premier qui étend un deuxième, qui étend un troisième, etc. Donc les extendeurs comme on pouvait les avoir pour les produits connectés en fait vont moins servir. Donc Eli nous a parlé des prises connectées, donc ils ont principalement une prise qui est compatible norme UE. Enfin, des prises françaises, d'ailleurs. Vous avez aussi une multiprise. Alors, elle est sortie il y a quelques années déjà, une multiprise sur laquelle vous avez 3 prises connectées qui sont indépendantes. Il n'y a pas le compteur de consommation sur ce modèle-là. Par contre, vous avez des prises USB en plus. Alors, les prises USB ne se contrôlent pas avec l'application et avec HomeKit. En fait, les prises USB sont tout le temps allumées. Hein. Vous ne pouvez pas les éteindre indépendamment. Moi, j'en ai une du même style de chez Kugeek qui fonctionne comme ça aussi. Maintenant, l'intérêt, c'est que vous vous retrouvez avec 3 prises connectées. Alors, c'est des produits qui sont assez chers quand même, dans la mesure où la multiprise, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez l'acheter donc sur les revendeurs habituels, hein, c'est quand même 100 euros.
Oui, 99,95, c'est ça.
Ouais, oui. J'arrondis à 100, hein, désolé.
Oui, oui,
hein,
t'as raison.
Excuse-moi, du coup, je passe le prix... je sais plus comment on dit, aide-moi, Ellie, le prix...
Le prix public
catalogue.
Prix catalogue.
Non, mais le prix... quand c'est moins de 100 euros, c'est mieux.
Ah, un prix psychologique.
Prix psychologique, merci. Donc, vous avez cette multiprise. Ensuite, dans la partie éclairage, donc vous retrouvez des produits, évidemment, un light strip, comme tout fabricant de produits domotiques qui se respecte, hein, c'est important, tout le monde doit avoir ça dans sa gamme. Vous avez aussi, par contre, une petite lumière qui est plutôt sympa, qui a une forme de dôme, qui s'appelle Eve Flare, et qui a l'intérêt d'être portable.
Oui, sur batterie.
Sur batterie, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'emmener à l'extérieur et résister à la pluie en plus. Donc toujours pareil, hein, je vais pas vous donner tous les tarifs parce que sinon on va
faire très long. Mais 99 euros aussi.
Et par contre, l'éclairage vaut lui 79,95 €, ce qui est beaucoup moins. Donc on voit qu'on est quand même sur des produits qui sont plutôt dans le milieu haut de gamme. Hein.
Oui.
On n'est clairement pas sur des produits comme Aquara où vous avez vous retrouvez avec des prises connectées à 10 €. Hein. Maintenant, une fois de plus, on a de la qualité. Je pense que ne serait-ce qu'au niveau de la vie privée, c'est peut-être un petit peu plus sûr que les produits Xiaomi, je pense.
Je sais pas pourquoi tu dis ça.
Oh, je sais pas, on a quand même quelques... On pourrait avoir quelques petits doutes. On a quand même des produits qui peuvent se retrouver sur des serveurs chinois, hein, donc on sait jamais. Hein.
Ouais, bref.
Et alors, dans les deux produits que tu viens de citer, la prise, donc, elle est Thread, et la multiprise est Thread aussi.
Donc, on voit que c'est des technologies, voilà, ils l'ont vraiment implanté partout. Donc, ensuite, la troisième rubrique, c'est sécurité. Donc là, on se retrouve avec une petite caméra connectée qui vaut un prix certain. On avait parlé, on a eu l'occasion de parler dans les premières émissions de caméras connectées. On avait parlé de la Xiaomi, on avait parlé de...
Des Eufy.
Merci, Ellie. Heureusement qu'on fait ça.
Ouais.
On est complémentaires. Les caméras, elles valent quand même 119,95€ la caméra.
Alors, donc, et pourquoi ? Car j'ai posé la question, bien sûr, hier, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, mais comment cela se fait-ce que la caméra, elle vaut 119€ ? Et ils m'ont dit, parce que notre caméra, elle utilise la norme Secure Video Apple, comme Netatmo, qui est plus cher. Et donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour l'instant, de Eufy, mais peut-être qu'ils y viendront. Donc, le fait d'utiliser le Secure Video, donc, vous garantit la privacité totale de cette caméra que vous mettez à l'intérieur. Maintenant, est-ce que ça justifie la différence de prix ? Moi, je ne défends pas tout ce qu'ils font. Hein. Je vous explique que c'est des produits nouveaux, qui respectent des nouvelles normes, etc. Mais je trouve la caméra un peu chère. Maintenant, Secure Video, peut-être qu'ils payent des royalties Apple, je ne sais pas. Peut-être qu'il la positionne par rapport aux autres caméras Secure Video du marché. Au départ, quand elle est sortie, elle était déjà à 149. Hein. Donc là, ils l'ont baissé à 119, ce qui est un effort, mais ça reste quand même au-dessus des 100€. Hein. Quand vous voyez des caméras à moins de 50, qui en plus font du pan-tilt-zoom, on aura un peu plus de mal. Et puis le Secure Video, suivant comment vous paramétrez vos routeurs, etc., vous n'êtes pas du tout obligé de faire sortir les vidéos de chez vous hein, ou d'autoriser quelqu'un à se connecter. Et d'ailleurs, il y a des scripts parfaitement possibles à faire dans HomeKit, y compris d'ailleurs l'utilisation d'une prise qui peut faire « je rentre dans la maison, les caméras se coupent physiquement parce que les prises les ont coupées ». Et dans lequel cas, le risque que la vidéo soit sécure, elle est d'autant plus sécure qu'il n'y a pas de caméra. Hein, donc voilà. Donc, il y a des solutions.
On a aussi, alors dans la partie sécurité toujours, alors voilà, il y a des détecteurs d'ouverture de porte classiques, des détecteurs de
présence. Compatibles Thread, ceux-là, justement. Ceux-là sont compatibles Thread.
Ouais.
Ce qui les rend un peu différents des autres.
Tout à fait. Je te confirme, Ellie. Il y a un produit, moi, que j'ai trouvé plutôt sympa, qui est relativement récent, qui est le Eve Water Guard, qui vous permet en fait de détecter les fuites d'eau. En fait, vous avez un petit fil qui par défaut fait 2 mètres que vous pouvez laisser traîner par exemple sous une baignoire ou autre, un endroit peu accessible. Et si par hasard il y a une.
Par exemple, un congélateur.
Ouais, congélateur. Ouais, et s'il y a une fuite d'eau, du coup vous avez une notification. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, machine à laver. Enfin, je sais pas, moi par exemple, chez moi, tous les électros sont à côté les uns des autres. Donc je pourrais tout à fait imaginer laisser un fil couler le long du bar vu que c'est sous un bar.
Exactement.
Vous avez aussi.
Juste une petite info, un des scénarios qu'ils proposent dans les exemples, justement, c'est quand tu mets un water guard, donc ça détecte une fuite, et donc le scénario peut consister à dire, je coupe la prise ou la multiprise, qui fait que les autres appareils, ou avant qu'il y ait un court-circuit, il y a une fuite d'eau, je coupe les appareils.
Ça coupe pas l'arrivée d'eau, malheureusement, mais c'est déjà pas mal.
Vous avez aussi un détecteur de fumée, sinon. Et puis donc ils ont une gamme orientée jardin, alors dans laquelle on retrouve d'autres produits hein, qui sont étanches comme leur station météo connectée, la fameuse F-Flare, donc la petite boule lumineuse, le détecteur de présence, et aussi un autre produit qui est plutôt intelligent aussi. Ils ont quelques produits comme ça qui sortent de l'ordinaire, qui s'appelle Evaqua en fait, qui est un contrôleur d'eau intelligent. Théoriquement, vous pouvez couper vous le mettez en dessous de votre tuyau d'arrosage, par exemple, enfin avant le tuyau d'arrosage au niveau du robinet, et ça peut vous permettre de gérer, de convertir votre robinet extérieur en un système d'arrosage intelligent, donc par exemple avec des systèmes d'heures où ça fonctionne, vous avez des statistiques, etc. Donc c'est plutôt pas mal, mais toujours pareil, on est sur une gamme de produits qui vaut quand même, je regarde le prix pour pas dire de bêtises, 130€ à peu près pour le contrôleur. Alors il y a certains produits qui sont disponibles directement sur leur site internet, sinon vous les avez chez d'autres vendeurs. Il y a pas mal de produits qui sont en rupture de stock quand même, Donc on sent qu'il y a le petit renouvellement, et je pense que le fait qu'ils aient intégré la technologie Thread, je pense qu'on est dans une phase de transition, et il y a sans doute certains produits qui ne sont pas encore trop disponibles, enfin qui ne sont plus disponibles, parce que cette fameuse petite puce doit être rajoutée.
Oui, par exemple, si on parle de la prise, quand on regarde dans le store, on voit que celle qui gère le Thread, c'est la quatrième génération, donc elles font importante. Si vous trouvez sur un site de vente par correspondance une prise pas chère, vérifiez bien la génération, parce que les trois premières générations ne sont pas compatibles Thread. Donc, alors que la quatrième...
Oui, bonne remarque.
Et la techno n'existait pas.
Et oui, forcément. Et un dernier point qui peut être intéressant, parce que il y a quatre pôles principaux, mais il y en a un cinquième dans leur site, qui parle de chauffage et qualité d'air. Alors, évidemment, c'est un peu moins populaire et c'est moins étendu que tous les autres, mais c'est pas mal parce que ils ont des produits, deux produits, dont un particulièrement. Il y en a un qui s'appelle le Eve Thermo. Et en fait, c'est un thermostat pour les radiateurs à eau qu'on trouve dans certains immeubles. Bon, si vous avez du chauffage électrique, on a parlé de Rio, j'espère bientôt le test parce que on approche de fin février et vous savez que j'en ai commandé un pour pouvoir vous en parler. Compatible HomeKit, hein. Et j'ai discuté avec l'ingénierie de chez Rio et je leur ai dit, mais les radiateurs, vous savez, on les met partout, hein. Ça serait pas bête si vous pouviez faire que ce soit en plus des produits Thread. Et ils m'ont dit, ah ben, on a eu des petites discussions préliminaires, mais on n'avait pas avancé. C'est intéressant ce que vous nous dites. Donc, voilà, on essaye d'influencer un peu l'industrie à notre modeste niveau. Mais donc, il y a des tas d'appartements qui utilisent encore du chauffage central, avec simplement des radiateurs qui sont des radiateurs à eau, des radiateurs en fonte, hein, traditionnels que tout le monde a en tête. Et ben, eux, ils mettent un petit thermostat qui se met à la place du robinet traditionnel qui permet en l'ouvrant ou en le fermant tout simplement d'augmenter ou de baisser le chauffage de façon tout à fait empirique. Ben là, vous pouvez le régler au degré près et vous pouvez le piloter à distance. Vous pouvez dire, ben, là je veux 21 degrés, là je veux 18. Quand je sors de la maison, je veux que ça baisse de 2 degrés ou... si vous avez le détecteur Eve, ça peut être avec un autre, évidemment, en fonction du scénario. J'ai ouvert une fenêtre, et bien mon chauffage se coupe ou baisse de temps puisque j'ai ouvert la fenêtre. Donc, vous voyez, ce genre de petites choses. Et simplement, ce produit-là, il suffit de le visser à la place de l'autre. Je suppose qu'il doit falloir arrêter ou purger le chauffage, je ne sais pas, pour ne pas vous prendre un jet d'eau chaude dans la tête, hein, ou peut-être pas, je ne sais pas comment ça marche, mais... Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Et l'autre produit plus anecdotique, mais très à la mode chez les millennials aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le Eve Room. Et le Eve Room, c'est simplement quelque chose qui vous donne la température de la pièce, mais surtout la qualité de l'air. Et les jeunes aujourd'hui sont très sensibles, surtout quand ils ont des jeunes enfants, des choses comme ça, à la qualité de l'air. Et là, ça vous donne une note et vous pouvez la traquer, avoir des alertes. Donc c'est pas un détecteur.
Et partir de chez
de
vous
fumée.
En courant si la qualité est pas bonne.
Voilà, il y a aussi un détecteur de fumée, un peu cher je trouve, mais compatible, bon, une centaine d'euros hein, aussi, hein, mais compatible HomeKit et pareil, dès qu'il y a le moindre signe de fumée, ça peut vous avertir immédiatement, ce qui vous permet de regarder avec votre caméra. Et si vous voyez que l'appartement brûle, ben vous pouvez appeler les pompiers.
Les détecteurs de fumée, ce sont des produits qui sont assez chers en moyenne. Hein. Généralement, on est toujours entre 80 et 100 euros, contrairement aux autres produits sur lesquels on trouve des équivalents à moins cher. Sur le détecteur de fumée, ils sont dans les clous.
Ouais. Oui. Ouais.
J'ai une petite question vraiment de vulgarisation. Qui a inventé Thread ?
Pour moi, c'est un peu comme la technologie chip, quoi. Ils sont tous mis ensemble. C'est comme le Bluetooth. En gros, il doit y avoir un conglomérat des fabricants qui se sont mis ensemble pour générer cette techno.
Oui. D'accord. Mais et la différence entre Thread et Chip ?
Alors, en fait, Chip, c'est l'association de plusieurs fabricants qui se sont tous engagés, entre autres, à utiliser Thread.
Ok. Et Thread, c'est la techno. Okay.
C'est ça. Mais peut-être d'ailleurs qu'un des premiers travaux lancés par Chip a été l'adoption d'un standard qui s'est appelé Thread. Hein, donc, alors, c'est un protocole basé sur l'IPv6. Super. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Donc, en juillet 2014, le Threat Group Alliance a été constitué pour aider effectivement à ce que cette technologie devienne un standard de l'industrie. Les membres initiaux, c'était ARM, donc ARM, on connaît, Big Ass Solutions, donc les solutions gros cul, je sais pas qui c'est, mais bon, ils gagnent certainement à être connus.
C'est quoi ça?
Il y a marqué Big Ass Solutions, c'est Wikipédia, je sais pas qui à moi.
Bien.
Il y a Freescale.
T'es sûr que t'es sur la bonne page Wikipédia là?
Je t'assure. Mais alors, Big Ass Fans, c'est une société américaine qui fabrique des ventilateurs, des lumières et
des sextoys, pardon.
Non, et des produits pour l'agriculture. Et donc, leur QG est à Lexington, dans le Kentucky, et ils ont des bureaux en Australie, Malaisie, Singapour, Canada. Et donc, pourquoi ils s'appellent Big Ass Fans? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ils font partie de ces gens-là. Mais vous avez aussi donc Nest. Donc évidemment, ce qui veut dire que les produits Nest vont être compatibles. Osram, Samsung, Somfy. Ah, Somfy fait partie de l'alliance. Pas mal, ils sont français. Tyco, Qualcomm, etc. Et donc, Apple a rejoint Thread en août 2018. Un peu à 2018. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Bon, il faudra qu'on regarde. Mais donc, ils travaillent dessus. Ils ont peut-être commencé déjà à penser... à ce protocole en 2018, puisque l'IPv6 en 2018 n'était pas très 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 développé, mais bon, voilà.
Est-ce que, les garçons, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du matériel HomeKit non Thread? Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut devenir compatible via une mise à jour, ou est-ce qu'il faut des produits avec une puce Thread à l'intérieur?
Alors, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend d'abord si votre maison, par exemple, a besoin d'un réseau étendu et maillé. Si vous habitez un studio, ne vous posez pas la question, hein, ça va fonctionner et puis c'est tout. Si vous avez une maison étendue, ben vous avez plusieurs solutions. Si vous êtes équipé avec des outils d'un certain niveau, comme par exemple les produits Eve dont on vient de parler, eux le font généralement par mise à jour du firmware, sauf dans des générations d'il y a peut-être 3-4 ans où ils n'y pensaient pas du tout. Mais c'est une simple mise à jour du firmware. Vous avez aussi une autre solution qui consiste à dire bah, je ne vais pas changer tous mes appareils domotiques qui ont un certain prix, mais je peux mettre dans certaines pièces des HomePod mini où un HomePod mini suffit, il va faire du Thread, et dans certaines autres pièces où je ne veux vraiment pas de musique. Par exemple, l'endroit où vous avez les machines à laver, etc., vous n'avez pas forcément envie de mettre un pod mini là-bas, mais vous pouvez toujours mettre une prise. Et du coup, tant qu'à faire, vous mettez une prise Eve, parce que celle-là, elle est Thread, mais probablement dans quelques mois, on trouvera des concurrents, on trouvera, à partir du moment où c'est Thread compatible, on est sûr que ça marche en IPv6, on est sûr que ça va fonctionner avec HomeKit, et bien entendu avec Alexa et Google Home, puisque eux ils font partie de l'alliance aussi, hein, donc ils n'en parlent pas beaucoup, mais pour l'instant, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'équivalent du HomePod mini qui a servi à la base, parce que tout ce protocole-là que Eve avait dans ses cartons en tant que développeur, tant que le HomePod mini n'était pas sorti, il ne pouvait pas l'utiliser, parce que sinon il aurait fallu un pont. Et le pont pouvait être l'Apple TV, mais sinon c'est le HomePod mini aujourd'hui.
Ouais, alors justement, c'est quoi les autres produits qui permettent d'avoir un pont à part le HomePod mini?
Ben, l'Apple TV, je crois. Je n'en connais pas d'autres, François, peut-être?
Les ponts des fabricants, quoi. Enfin, du type... Je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais un pont du style les ampoules, le pont Huawei, c'est le cas, quoi.
Alors, oui.
En fait, le principe du Thread, c'est d'éviter d'avoir des ponts propriétaires. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, pour votre éclairage, un pont Hue, pour votre, je sais pas moi, si vous avez des produits Aquara, vous devez avoir un pont Aquara, etc. L'idée, c'est que ce soit une seule communication, un seul type de communication entre vos périphériques. Donc en gros, vous avez des HomePod mini, vous avez 3-4 HomePod mini dans la maison, et chaque périphérique va se connecter à HomePod mini et va se charger de rediffuser à un autre qui rediffusera à un autre qui rediffusera peut-être HomePod Mini, etc. etc. C'est ça, l'idée, justement, c'est d'éviter les ponts propriétaires.
Oui, et le HomePod Mini, en tant que, justement, pont, ou en tout cas nœud thread, est capable de véhiculer un signal même qu'il ne connaît pas. Il suffit qu'il respecte le protocole. Hein. C'est-à-dire que si c'est un signal qui est destiné à une prise Akara ou autre chose, enfin, ou à un produit Akara, pas une prise forcément, il va router le signal. Hein. Même si ce n'est pas du HomeKit pur, c'est un signal compatible thread, il va passer.
Ok, bon, bah, c'est très clair, les amis. Merci beaucoup. Merci Ellie et merci François pour ce dossier dédié à Thread et donc au produit de chez Yves compatible avec ce protocole qui m'a l'air hyper séduisant.
Et qui est le futur.
Ouais. Donc vous n'avez pas encore d'accessoires Thread, ni l'un ni l'autre.
Alors justement, on a des HomePod Mini, mais pour l'instant, tant que je n'ai pas autre chose, j'ai fait le test parce que l'application Yves, celle qui vient de sortir aujourd'hui, justement, met en relief, dès que vous avez un réseau Thread, dans les réglages, il y a marqué Thread, et il vous explique quelle est la consommation, par où ça passe et quel est le nœud, etc. Donc la qualité du réseau Thread, ce qui vous permet de placer une prise ailleurs ou pas, suivant la qualité du signal. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai mon HomePod Mini, mais qu'il est tout seul, et donc je ne peux pas faire un réseau avec un seul appareil, malheureusement.
Oui. Donc, je comprends.
J'attends impatiemment quelques produits de chez Yves qu'on va pouvoir tester. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir des produits en test, qu'on va se répartir François et moi, et on va vous faire un petit test justement d'un réseau maillé assez rapidement. Mais j'étais super vexé juste avant l'émission quand j'ai téléchargé la mise à jour de l'appli. J'ai fait réglage thread et il m'a dit « Vous n'avez pas de réseau thread car vous n'avez qu'un HomePod Mini. » Je me suis dit « Oh, zut alors !» Tout ça pour ça.
Bon, merci en tout cas Ellie et merci François. On va continuer à parler d'accessoires sympas dans un instant avec l'un des nouveaux stands de recharge de chez Belkin dédié à l'iPhone 12. Et oui, il y a du MagSafe et du 15 watts dedans. C'est le test de la semaine. Cher Jean-Christophe, je sais que tu aimes être à la pointe. Et tu as craqué pour cette nouvelle station de recharge, assez élégante je crois, de chez Belkin, qui est capable de recharger à la fois tes iPhone 12, que je rappelle que tu en as deux, et tes AirPods, c'est ça ?
C'est ça. Et même plus encore, comme je l'ai découvert, et Belkin le dit pas, donc on va pouvoir revenir sur le sujet. Alors,
déjà à quoi elle ressemble et comment elle s'appelle, on va lui donner son petit nom déjà.
Pour nos amis Patreon, je vous montre l'objet.
Ouais, car vous avez la version vidéo, vous qui nous soutenez avec quelques euros par semaine sur Patreon. Alors mets-la bien devant toi, comme ça elle ne sera pas prise dans le fond vert. Alors là, on la voit bien. Donc c'est un socle blanc, une tige chromée et un disque MagSafe au bout, c'est ça en gros.
Exactement. Sauf que ce qu'on ne voit pas à l'écran et qu'on va décrire, c'est ce petit logement à la base.
Alors il y a un creux, c'est ça qui
est renfoncement.
Un renfoncement sur la partie plate qui se pose sur le bureau.
C'est ça. Et ce renfoncement, c'est un chargeur Qi sur lequel on met les AirPods.
Et on voit que la lumière verte s'allume. Ouais.
Voilà, qui se charge. Et donc, quand on le repose, ce que je ne peux pas vous montrer à cause de la caméra, ça fait un magnifique piédestal pour l'iPhone, pour un de mes iPhone 12, comme tu dis.
Oui, car tu as le Max Pro et le...
Et le Mini.
Voilà, c'est ça. Tu as les deux extrêmes.
C'est ça.
Donc, tu peux en charger qu'un seul à la fois, hein, rassure-moi.
Oui, alors... Mais... non. En fait, tu peux en charger deux. Figure-toi que on a parlé du renfoncement, qui est idéal pour accueillir les AirPods. Ça tient dedans, tu le poses, tu n'y penses pas, ça charge. En fait, il y a toute une partie de la base qui doit contenir la bobine. Et si on pose un iPhone, j'ai essayé avec un 11, sur la base, l'iPhone se charge.
Même si elle ne touche pas le fond du renfoncement ?
Même si ça ne touche pas le fond du renfoncement.
Ah ouais.
Ce qui en fait donc un outil très sympa si on doit jongler avec plusieurs iPhones non MagSafe ou même un téléphone Android, puisque c'est du chi et ça charge.
La charge est peut-être moins efficace que avec le contact direct.
J'ai pas chronométré, mais elle est sans doute plus lente. Ouais. Clairement, et d'ailleurs, c'est pour ça que je commençais le test comme ça. Belkin ne communique pas dessus. Belkin dit là-bas, c'est pour les AirPods. Mais j'ai été agréablement surpris de constater qu'elle chargeait très bien un iPhone 11.
Il y a pas de solution pour une Apple Watch en revanche.
Alors, si. En fait, Belkin a annoncé au CES ce produit, qu'ils appellent 2 en 1, donc. Ouais. Et un produit 3 en 1, mais qui n'est pas encore disponible en France, qui a une branche supplémentaire. Vous avez vu à l'écran que ça faisait comme un arbre, avec un galet Apple Watch, qui se place donc à droite de l'iPhone. J'avoue que, bon, d'abord, il n'est pas disponible en France, mais j'étais moins intéressé par le produit à 3. Je trouve que c'est un chouette objet de bureau. Et moi, quand je travaille, mon Apple Watch, elle est à mon poignet. Donc je voyais pas bien l'intérêt de la chose. Et ça augmente encore le prix du produit, qui est, je crois, à $150 pour le 3 en 1. Et qui est à 99 €. Le produit qu'on a testé là est à 99 €.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, Jean-Christophe, de tester ce stand, ce support de recharge-là? Parce qu'il y en a tellement sur le marché.
Alors, il y en a tellement, mais il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un des seuls chargeurs estampillés « made for MagSafe ». Et ça a une conséquence directe, c'est que le galet est monté. Évidemment, il est monté, ça c'est le pro de MagSafe, mais ça donne 15 watts de charge. Ça permet donc la charge rapide sur les iPhone 12. Ça donne aussi, c'est un peu gadget, mais après tout, c'est là, donc on va pas bouder le plaisir. Ce petit gimmick, quand vous collez le téléphone au chargeur, l'iPhone le reconnaît et vous montre sur l'écran de l'iPhone la zone de charge sous forme de cercle. Voilà. C'est un gadget, mais c'est sympa. Et surtout, je dirais, ça marche à tous les coups. On a déjà parlé ici des produits Anker, que j'aime beaucoup par ailleurs. J'avais déjà un chargeur de bureau, donc qui avait l'avantage d'incliner l'iPhone et qui permet de lire les notifications Face ID, parce qu'il est intégré dans le bon sens, comme le chargeur Belkin. Sauf que le chargeur Anker, il n'est pas parfaitement compatible avec l'iPhone 12 Pro Max. Parfois il charge, parfois il ne charge pas.
Ah.
Et je pense, malheureusement, ça c'est un peu le côté Apple qui prend un standard existant pour l'améliorer et qui, ce faisant, casse parfois la compatibilité la plus large. Voilà, ça m'a donné envie donc de changer de chargeur pour avoir un chargeur qui charge à tous les coups. Tu me diras, c'est ce qu'on leur demande, mais justement,
oui.
Avec l'avènement des nouveaux iPhones, c'est pas toujours le cas. Donc ça a poussé le changement. Il y avait aussi cette idée de tester cette notion de MagSafe, qui à la base me faisait pas rêver, mais après tout, puisqu'elle est là, pourquoi pas. Ça a un autre avantage sur le...
On va rappeler ce que c'est, peut-être. C'est un aimant, c'est des aimants qui alignent automatiquement l'iPhone, c'est ça?
Ce sont des aimants, mais des aimants intelligents.
Ouais.
C'est-à-dire que ça permet évidemment à l'iPhone de rester en place quand il est chargé. Ça a l'air de rien, mais c'est précieux. Et ça donne aussi, voilà, le petit gadget dont on parlait tout à l'heure, de connaître la charge et de dispenser, surtout, les 15 watts de charge quand ils sont nécessaires. Et ça, c'est l'iPhone qui dit au chargeur, oui, j'ai besoin de plus de charge, balance la sauce. Ou non, c'est pas la peine, ce qui permet justement de gérer la vie de la batterie au cours du temps. Et donc, le côté made for MagSafe, on sait qu'Apple aime les autocollants, on sait qu'Apple aime prélever sa dîme.
Et les royalties, ça.
Voilà, et les royalties. Là, il y a un vrai intérêt qui est de la charge constante selon les besoins du téléphone.
Ouais.
Donc, pour toutes ces raisons, je trouvais que le produit était intéressant à tester. C'est pour ça qu'on a demandé à Belkin de vous le présenter ici. Et il y a une autre raison. On dira qu'il est cher, c'est vrai qu'à 99 euros, c'est quand même un budget, sauf que tout est compris, y compris donc le chargeur que vous branchez au mur, qui utilise un câble pour se connecter à la station de charge. Tout est inclus.
Bah heureusement, tu n'as pas acheté un chargeur sans le câble pour lui-même le brancher au mur.
Ah bah oui, non. Sauf hein que Apple ne vend plus, ne fournit plus dans les iPhones le chargeur qui va au mur. Et sur certains produits, notamment chez Anker, il faut acheter le chargeur qui va au mur.
Ah, ça,
et on peut être amené à acheter un câble parce qu'on en a besoin, parce qu'on l'a utilisé ailleurs. Donc ouais. Voilà, les 99 euros, il faut les prendre avec tout compris. Si on, je crois que le chargeur Apple doit déjà être à une vingtaine d'euros. Le câble USB-C Lightning est lui aussi à une vingtaine d'euros. On est à 40 euros pour ce que tu appelais un truc inutile. Et le Galet MagSafe, je pense qu'on n'est pas loin des 40 euros non plus. J'ai pas vérifié.
Ah oui, au moins je crois, oui.
On est déjà à 80 euros si on fait notre petite addition façon Top Chef ou je fais mon marché. Voilà, donc 99 euros pour une solution complète, officielle Apple, et qui, on en parlait tout à l'heure, est assez jolie, même quand le téléphone n'est pas dessus. Je trouve que ça se tient.
Bon. Eh bien, écoute, on va clore ce test avec notre petit pavé technique, celui qu'on faisait en presse écrite. Les plus, les moins de ce stand de recharge 2-en-1 Belkin MagSafe.
Alors, les plus, ça marche à tous les coups. L'autre plus, qui n'a l'air de rien, parce qu'évidemment, vous connaissez mon bureau, les amis, je suis entouré d'iPad, mais je le remontre pour nos amis Patreon. Cette petite fonctionnalité sympa.
Mets-la devant toi, comme ça on le voit. Sur ton pull, par-dessus ton pull, voilà. Ah, oui.
Lié à l'aimant.
On voit pas bien, on voit l'iPhone, mais on voit pas bien le support.
Justement. Mais tu vois que l'iPhone il tient tout seul, il flotte dans l'air, en position horizontale, pratique pour regarder une vidéo.
D'accord, tu pourrais le mettre dans l'autre sens, ça tient pareil.
Ah ben, moi je le mets plutôt dans l'autre sens pour Face ID.
Ouais, ça, ouais.
Mais c'est pratique de pouvoir le tourner.
Et on voit le... C'est quoi, c'est le Auckland Bridge ou c'est le... T'as une photo sur ton
c'est
écran
le, c'est
de
le Boston verrouille. Bridge.
Le Boston Bridge,
c'est le
d'accord.
Boston Bridge. Voilà. Et donc, voilà, cette fonction 2-en-1 qui est sympathique si on n'a pas d'iPhone pour regarder une vidéo à son bureau. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, on a parlé du design.
Ouais.
L'autre plus, évidemment, MagSafe, donc... Marche à tous les coups. Et évidemment, le côté 2-en-1, puisque voilà, pour charger des AirPods ou des AirPods Pro, ou même justement un téléphone non MagSafe, mais Qi.
Une note sur 5?
J'ai pas dit les moins, il y en a.
Ah, alors, les moins alors.
Alors, il y a un moins.
Ah.
Qui est pas. Enfin, il y en a deux. Le vrai moins, c'est pas la faute de Belkin, mais ça m'agace, alors j'en parle. En fait, évidemment, l'aimant de l'iPhone, il est placé à un endroit particulier. C'est pas tout l'iPhone qui est aimanté.
Ouais. Ouais.
Et donc, régulièrement, je me bats pour trouver le bon placement. Et on se retrouve à tenir son iPhone Pro Max à bout de bras pour trouver le bon endroit. Voilà. J'ai pas encore trouvé l'angle pour le coller à tous les coups. C'est agaçant quand on doit le faire plusieurs fois par jour. Voilà.
Et c'est pas la faute du support, ça, si?
Non, c'est pas la faute du support. Et Apple ne pourrait pas mettre toute la coque aimantée. Donc c'est la faute à personne, mais il faut le savoir avant de l'acheter.
Ouais.
Il faut. On joue un peu à tirer à l'arc les yeux bandés. C'est pas très agréable. Ça c'est un moins. Le deuxième moins, c'est le prix qui, même si justement on le rappelait, l'équation économique vaut le coup. Voilà, c'est pas un produit à la portée de toutes les bourses. C'est un peu un produit premium, même si moi je considère qu'il vaut son prix.
La note sur 5.
Oh ben 4,5 sur 5, c'est vraiment
4,5 sur 5.
Sur ce type de produit, c'est vraiment sans faute.
Merci Jean-Christophe. Bon, tu restes bien sûr avec nous, d'autant qu'on te retrouve dans une dizaine de minutes pour Vue d'ailleurs. Il va être question de Tim Cook dans la presse américaine. Les mises à jour de la semaine, ça va être rapide aujourd'hui les garçons.
Et oui, parce que les mises à jour de la semaine concernent surtout des nouvelles versions, donc une qui est bêta, donc pas destinée à tout le monde, qui est iOS 14.5, on en a déjà parlé, donc François va nous en faire une démonstration pratique tout à l'heure dans son tuto, mais quelqu'un a remarqué que dans 14.5, il y avait aussi une nouvelle version de Maps, et en fait, figurez-vous que Maps a décidé de waser. Est-ce que vous savez ce que je veux dire par là?
Tu fais allusion à Waze?
Exactement, parce qu'Apple a rajouté en douce et sans trop en parler une fonctionnalité sociale qui permet maintenant, enfin qui permettra dès qu'on aura 14.5, hein, donc ça ne saurait tarder, de pouvoir, avec une petite icône, signaler aux autres un accident, des travaux ou un radar. Ils ont même fait comme du Waze. Et ils viennent au radar, donc ça veut dire que du coup, tous ceux qui utilisent Waze dès qu'ils sont en voyage justement pour ça, ben vont pouvoir utiliser Maps.
C'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Et oui, surtout dans CarPlay et tout, donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc l'autre mise à jour, un peu mineure, qui est passée un peu inaperçue, mais donc il faut la faire, je vais vous expliquer pourquoi, concerne macOS 11. Donc je vous en parle en sachant que je ne l'ai toujours pas fait, mais... Bon, un jour, je vais quand même y venir. Hein,
parce que tu n'es pas encore passé à Big Sur, c'est pour ça.
Non. Mais donc, il y a un bug, dont 11.2, qui faisait que certains MacBooks se chargeaient mal. Et donc, Apple l'a corrigé très rapidement. Hein, donc, il y avait un problème de charge de batterie. Et puis, ils ont trouvé une faille de sécurité dans sudo. Est-ce que vous savez ce que c'est que sudo?
Ah. C'est une commande du terminal, sudo.
Exactement. Et donc, sudoku, ça veut dire pardon. Super User Do.
Sudoku, t'as dit, c'est ça? C'est ça.
Non, sudo, c'est Super User Do. C'est une commande qui vous demande votre mot de passe administrateur. Et c'est une commande avec un niveau d'exécution prioritaire. C'est-à-dire qu'avec sudo, on peut faire tout et n'importe quoi dans une machine, puisque vous êtes au niveau du terminal comme si vous étiez l'administrateur Unix de la machine. Donc... du coup, s'il y avait une faille de sécurité dans sudo, il faut vraiment, vraiment faire la mise à jour parce que ça veut dire qu'il y avait une possibilité que quelqu'un prenne un contrôle total de votre machine. On ne sait pas dans quelles circonstances, Apple ne le dit pas, mais ils l'ont corrigé vite. Hein. Donc pour une fois, je vous dis, faites-la. Si vous êtes en 11.2, faites-la 11.2.1 vite.
Merci Ellie. Et ben, dans un instant... à propos de mise à jour, on va vous reparler d'un couple magique, l'iPhone plus l'Apple Watch. C'est le tuto audio, à tout de suite. Le tuto audio avec toi François aujourd'hui, et tu associes deux de tes produits Apple préférés.
Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire mon Benjamin Vincent et de vous faire un petit tuto audio.
Vas-y, essaye.
Je vais essayer de... à défaut d'égaler le maître, au moins de m'en rapprocher.
Oh.
Donc, je vais vous proposer un petit tuto audio pour activer la fonction qu'on attendait tous les possesseurs d'un iPhone avec Face ID, pouvoir déverrouiller son iPhone quand on est masqué grâce à un élément que vous avez au bras, votre Apple Watch. C'est une nouveauté qu'on a évoquée rapidement la semaine dernière, parce qu'elle venait juste d'être lancée, qui est disponible grâce à la bêta d'iOS numéro 14.5. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, c'était uniquement réservé aux développeurs, et Apple a pris l'habitude depuis quelques versions d'iOS maintenant, ça doit bien faire 2 ou 3 ans, de proposer des bêtas publics. Les bêtas publics, souvent, elles sont installées quand il y a des mises à jour majeures qui arrivent, comme iOS 14, mais elles sont aussi disponibles pour les mises à jour mineures, comme la 14.5. Donc pour faire plaisir à Ellie, qui je sais est toujours le premier à nous inciter à installer des versions bêta,
mais
je me suis
là, oui.
empressé de faire la mise à jour. Juste avant de vous décrire la démarche, je vais juste faire une mise en garde d'usage, vous dire que d'installer les bêtas, c'est à vos risques et périls, que vous pourriez avoir des soucis après avoir installé des bêtas, du type des photos qui disparaissent, des iPhones qui ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc faites-le en connaissance de cause, et ne venez pas après m'insulter sur Twitter parce que vous avez fait la mise à jour avec la bêta et que du coup, ça ne marche plus.
Et faites une sauvegarde.
Et faites une sauvegarde, évidemment, mais c'était dans la suite de mon petit tuto audio de la semaine.
Pardon.
Donc, pour accéder au bêta, il faut que vous alliez sur un site internet qui a une adresse qui est très simple, qui est beta.apple.com. Donc bêta, beta.apple, vous connaissez apple.com. Il va falloir que vous vous inscriviez au programme et vous engagez à faire remonter les bugs. Théoriquement, vous êtes censé les faire remonter. Vous aurez besoin de votre Apple ID et vous aurez juste à vous inscrire sur le site internet et après vous allez pouvoir télécharger un profil pour l'appareil de votre choix. Les bêtas publiques, en fait, elles ne sont pas disponibles que pour les appareils iOS, c'est aussi possible pour WatchOS, pour tvOS, pour iPadOS et pour macOS. Vous pouvez les essayer sur tous vos devices. Un profil concrètement, c'est quoi? C'est un petit fichier qui indique à votre iPhone que vous accédez au bêta. C'est aussi utilisé dans les entreprises. Je ne vais pas vous faire un autre tuto audio, mais concrètement, quand vous avez un téléphone qui est mis à disposition par une entreprise, l'entreprise peut à distance installer un profil qui va télécharger des logiciels, mettre des réglages, etc. C'est exactement le même principe. Là, ça indiquera à votre téléphone que vous avez accès au bêta d'iOS. Vous allez ensuite télécharger le profil qui va s'installer dans les réglages de l'iPhone. Donc quand vous irez dans les réglages de l'iPhone, il vous dira « il y a un profil, est-ce que je l'installe ?» Vous mettez « oui » et vous allez devoir redémarrer le téléphone pour que ça fonctionne. Ensuite, comme pour toutes les mises à jour d'iOS, vous allez dans les réglages de l'iPhone, rubrique « Générale »,« Mise à jour logiciel » et vous allez pouvoir télécharger la dernière mise à jour publique qui est iOS 14.5. L'iPhone va télécharger la mise à jour et va redémarrer une nouvelle fois. Vous allez ensuite avoir une nouvelle fonctionnalité qui va apparaître dans les réglages de Face ID et code. Donc vous allez dans les réglages de votre iPhone, Face ID et code, et vous allez indiquer votre code de déverrouillage. Systématiquement, quand vous accédez à ce réglage-là, il vous demande toujours le code. C'est un principe, parce que du coup, vous allez toucher au code de votre iPhone et à la sécurité. Et vous allez ensuite pouvoir trouver la fonctionnalité qui s'appelle Unlock with Apple Watch, parce que la fonction n'est pas encore francisée. Et vous allez pouvoir l'activer, mais en fait, non. À votre avis, pourquoi?
Ah bah alors?
Non.
Mais pourquoi?
Pourquoi, les gars? Mais pourquoi? Bah, il suffit juste de regarder le fil.
Ouais, non, mais moi, je sais, parce que j'ai le fil sous les yeux.
Et oui, parce qu'il faut aussi que vous fassiez une mise à jour de votre Apple Watch. Et ça a été la blague pour moi, parce que mon iPhone était récupéré les bêtas, mais pas mon Apple Watch. Parce que, attention avec l'Apple Watch, si par hasard elle plante, si elle ne fonctionne vraiment plus, si c'est une brique, sur l'iPhone, vous avez des mods qui vous permettent de restaurer l'iPhone. Sur Apple Watch, c'est beaucoup plus compliqué, et potentiellement, vous pourrez vous retrouver à aller en boutique. Donc, faites attention à ça. Sympa, donc, vous retournez sur le site beta.apple.com et vous allez lui dire « Maintenant, je veux télécharger la bêta de WatchOS ». Vous téléchargez le profil. Il va falloir que vous alliez donc sur votre iPhone pour valider les CGU, pour pouvoir faire la mise à jour.
Les conditions générales d'utilisation.
Tout à fait, merci d'expliciter. Et vous allez pouvoir aller ensuite dans les réglages de votre Apple Watch après l'avoir redémarré une première fois et vous pouvez aller faire la mise à jour. Petit rappel aussi, hein, la mise à jour ne peut se faire sur une Apple Watch que si elle est branchée. Si votre Apple Watch n'est pas sur secteur, vous ne pourrez pas faire les mises à jour.
Une fois suffisamment chargé, je crois aussi.
50%
minimum de mémoire. Donc c'est après le redémarrage de la Watch, donc voilà, si vous êtes encore là, vous allez pouvoir retourner sur les réglages de l'iPhone dans Face ID et code et vous pourrez activer la fonction Unlock with Apple Watch. Donc maintenant, dès que vous aurez un masque et que vous aurez votre Apple Watch au poignet, théoriquement, l'iPhone se déverrouillera. Vous aurez une vibration sur l'Apple Watch avec un message vous disant que votre iPhone a été déverrouillé grâce à votre Apple Watch. Ça marche plutôt pas mal. J'ai eu quelques petits bugs. Ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas francisé. Comme je vous disais, de temps en temps, ça l'est. À d'autres moments, ça l'est pas. Ouais. Et la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on peut se poser une question.
Oui. La distance.
Et c'était quoi? Eh ben, j'ai testé et... C'est une collègue de travail qui avait mon téléphone, j'étais à côté, qui a essayé de déverrouiller mon iPhone, elle était masquée et mon iPhone s'est déverrouillé. Et pourtant, elle a des cheveux.
Mais elle était à quelle distance de toi?
Elle était très proche. On a essayé, je pense qu'en dessous d'1 mètre 50, 2 mètres, ça marche. Au-delà de 2 mètres, ça ne doit pas fonctionner.
Ouais.
J'ai pas vu de mesure précise pour l'instant, mais
ça suffit.
Voilà. Ça suffit, mais malgré tout, bah, en 2 minutes, on a le temps de faire quelques crasses quand même. On a le temps
si on se fait voler son iPhone et qu'on s'en rend pas compte, quelqu'un à côté de vous peut accéder à votre téléphone en fait.
C'est ça. Maintenant, l'avantage c'est que vous avez une petite vibration au bras, quoi qu'il en soit. Maintenant, voilà, c'est la petite mise en garde. Maintenant, je trouve ça vraiment très pratique et j'apprécie beaucoup cette fonctionnalité. Vraiment beaucoup.
Jean-Christophe, alors je sais que cette mise à jour t'intéresse hautement. Tu ne l'as pas encore faite, mais tu as un petit point d'interrogation apparemment.
Oui, alors moi je profite à plein d'Apple Pay, que ce soit sur la Watch et sur l'iPhone. C'est souvent plus pratique sur l'iPhone que sur l'Apple Watch parce qu'on a moins à se contorsionner face au terminal de paiement quand il est fixe. Et j'ai lu dans la presse américaine que cette mise à jour ne permettrait pas le déblocage masqué avec Apple Pay. Si c'est le cas, je trouve ça assez dommage parce que pour moi, c'est vraiment l'usage principal. Le cas de base, c'est on est à la boulangerie, on achète sa baguette et pour pouvoir payer sa baguette sans rentrer le code, il faut se démasquer devant la boulangère, ce que je trouve dommage. Voilà, et donc j'espère que c'est une erreur ou que ça va changer à la faveur des futurs bêtas. Je ne l'ai pas installé d'abord parce que même si j'ai plusieurs téléphones, mon outil de travail, j'ai besoin qu'il soit fiable. Et d'autre part, il me semble qu'on ne peut pas désinstaller la bêta sur l'Apple Watch. Et pour le coup, l'Apple Watch, j'en ai qu'une et je veux pas risquer de la briquer avant l'heure.
Bien sûr, bien sûr. Bon, ça n'empêche que ça peut être quand même très utile, au moins pour la partie déverrouillage. Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
Merci François.
Merci François. Vu d'ailleurs, c'est avec toi chaque semaine, Jean-Christophe, l'actu Apple vu des US. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un carton chez Apple.
Et oui, Benjamin. Et je ne parle pas ici d'une nouvelle série Apple TV ou, même si la vanne me fait honte, de l'Apple Car. Carton, voiture, vous l'avez. Non, c'est bien un vrai carton. Une boîte, quoi, qui a éveillé ma curiosité cette semaine. Un carton, parce qu'il illustre à merveille les efforts que fait Apple en pleine pandémie pour continuer à livrer. C'est l'excellent site de The Information, lu par tous mes copains dans la vallée, qui sortait l'info il y a quelques jours. Et c'est donc le début de la revue de presse. Même si vous désespérez depuis des semaines de recevoir vos AirPods Max Rose ou, on en parlait déjà il y a quelques semaines, le Wallet MagSafe, sachez qu'Apple ne vous oublie pas et met beaucoup de bonne volonté et d'argent pour que les produits arrivent quand même en pleine pandémie.
Ouais. Bon, c'est vrai que les délais sont impressionnants et c'est pénalisant pour plein de clients, mais ça ne concerne pas qu'Apple, Jean-Christophe.
Alors non, évidemment, ça ne concerne pas qu'Apple, mais il y a sans doute peu d'entreprises qui attachent autant d'importance à tout, en fait, à chaque détail, et justement à ce que l'expérience d'achat soit parfaite de bout en bout. Le carton, donc, en est un brillant exemple. Apple crée non seulement la belle boîte blanche qui protège ton nouveau Mac M1 ou un iPhone, mais aussi le carton qui protège la boîte. Celle en carton, c'est la marron, avec la petite bande prédécoupée et les soufflets qui permettent d'être sûr que la boîte blanche soit bien calée. C'est tellement bien fait qu'on se dit qu'un jour Apple va inventer le carton pour protéger le carton qui protège la boîte, qui protège le Mac. Mais le vrai problème, et c'est là qu'on parle vraiment de logistique, c'est que ce sont des cartons faits main, designés par Apple, et que donc, on les trouve pas partout. Apple va pas chercher son prêt-à-poster du coin, à la poste ou chez FedEx, pour mettre la jolie boîte blanche, la franchir, et vous l'envoyer. Non. En février dernier, par exemple, au début de la pandémie pour nous, mais en fait, l'œil du cyclone pour la Chine, Apple s'est retrouvé à court de carton. L'iPad s'est extrêmement bien vendu, on l'avait vu dans les résultats trimestriels de l'époque, justement parce que beaucoup de gens étaient assignés à résidence en Chine. Et donc, Apple était en panne de carton. Donc, on suit toujours la logique,
oui.
Incapable de vendre des iPads à distance parce qu'incapable de les poster sans le fameux carton.
Incroyable.
Donc, qu'a fait Apple à votre avis, les amis? Eh ben, l'article de The Information nous apprend qu'Apple a affrété un avion pour envoyer les cartons vides d'un entrepôt américain, l'entrepôt de cartons, vers la Chine pour pouvoir justement distribuer comme il se doit, avec la petite languette prédécoupée, en Chine, les nouveaux produits Apple. Bon, ça paraît dingue, mais c'est pas le pire. Et là, je vais vous livrer un petit secret de grands voyageurs qui rongent son frein en ces périodes de pandémie.
Ouais.
La plupart des compagnies aériennes, Air France, United Airlines, toutes les compagnies, gagnent de l'argent en vendant la capacité optimisée des soutes à des entreprises comme Apple. En gros, vous, on vous limite votre bagage à 25 kilos ou 30 quand vous êtes platinium.
Ouais.
Ça, c'est un clin d'œil pour Ellie qui va encore se moquer. Mais il reste de la place dans la soute quand vous avez mis vos bagages, si tous les passagers, justement, si l'avion n'est pas plein. C'est la place vide. C'est la place qui gâche du kérosène. Que font Air France et les autres? Ils sous-vendent la capacité en soute à des entreprises comme Apple. En clair, votre valise ou votre chien a sans doute voyagé en septembre dernier avec des palettes d'iPhone 12 Max. Pour la compagnie, c'est une façon de rentabiliser l'espace perdu. Pour une entreprise comme Apple, c'est l'assurance que les produits arrivent plus vite, puisque évidemment, les avions de passagers, ils volent plus fréquemment. Il y a deux vols par jour de San Francisco à Shenzhen, par exemple, ce qui n'est pas le cas d'un avion cargo, et aussi beaucoup plus rapidement. Les exigences de délai pour les voyageurs sont évidemment plus importantes pour les humains et même pour les chiens que pour les cartons. Donc utiliser un vol Air France, c'est tout bénef pour Apple. Sauf que ça ne vous aura pas échappé. Et pour le coup, des gens comme Alex, allez, clin d'œil à l'émission de la semaine dernière, et moi, on en souffre. Il y a beaucoup moins d'avions qui volent aujourd'hui à cause de la fermeture des frontières. Apple a donc beaucoup de mal à sous-louer un avion d'une ligne régulière, puisque il y a de moins en moins de vols. Ça se traduit par une obligation pour Apple d'utiliser des avions cargo plus lents ou des porte-containers, ces grandes barges, notamment que je voyais en bas de mes fenêtres de San Francisco, vu d'ailleurs toujours, qui sont beaucoup moins fréquents. Ça explique donc pourquoi les AirPods arrivent au compte-gouttes. Et aussi les AirPods Max, pardon, arrivent au compte-gouttes. Et aussi, tout comme un produit plus petit, et donc plus compliqué à stocker en nombre, et pas forcément en masse, contrairement justement aux AirPods que tu citais, Benjamin, comme le fameux portefeuille, met tellement de temps à arriver. C'est une histoire de pandémie et d'avion vide.
Incroyable.
Et oui. C'est incroyable, on l'a déjà dit ici, la logistique est au cœur de tout chez Apple, et c'est, bien sûr, on le sait, on en a déjà parlé, la martingale de Tim Cook depuis qu'il a rejoint Apple.
C'est sa spécialité.
Spécialité depuis qu'il est entré chez Apple, et c'était sa spécialité chez Compaq, d'où Jobs l'avait débauché en 97. C'est donc pas étonnant que ce soit l'angle qui ait pris Bloomberg cette semaine. Dans la somme, c'est une dizaine de pages en PDF, pour vous donner un ordre d'idée, la somme quasi hagiographique qu'ils ont publiée sur Cook il y a quelques jours.
Ouais. Pourtant, Jean-Christophe, Bloomberg, c'est plutôt un média sur lequel on lit davantage de rumeurs que d'analyses sur la longueur comme ça.
Alors oui. Mais ça, c'est le cœur de cible, le cœur de métier de Mark Gurman, qui a cofondé 9to5Mac quand il était adolescent et qui a levé tellement de lièvres sur Apple chez 9to5Mac qu'à sa sortie de l'école de journalisme, il a été débauché par Bloomberg. Je pense que ça n'arrive pas à beaucoup de journalistes. Ça n'arrive pas à beaucoup de journalistes, mais il était tellement bien informé et il l'est toujours tellement que effectivement il est spécialiste de la rumeur chez Bloomberg aujourd'hui. Et lui justement, il est assez distant par rapport à Apple. Il fait du vrai journalisme. Il informe les lecteurs de Bloomberg qui effectivement s'intéressent à Apple pour des raisons financières. Et il y a une distance sur le sujet qui n'est pas du tout le cas de, dans cet article de Austin Carr. Je cite, hein, en parlant de Tim Cook, son humeur égale, son sens de la diplomatie qui le rendait particulièrement efficace dans le climat polarisé actuel. Il revient d'ailleurs sur cette, tu sais, cette visite d'usine Potemkin il y a quelques années où Trump avait expliqué devant la presse comme il avait fait, comme il avait incité Apple à ouvrir cette usine qui existait depuis, qui tournait en fait depuis 6 ans. Évidemment, on voyait Tim Cook sur la vidéo encaissé en souriant, sans rien dire, sans corriger le président, comme si voilà, c'était la montre d'un sens du business hors du commun. N'en jetez plus, la coupe est pleine sur la géographie. On pourrait citer des dizaines de citations. Ce que l'article a en revanche de passionnant, et c'est et on revient à cette histoire de carton, c'est quand il explique que les équipes cornaquées par Cook négocient les coûts jusqu'au 4e chiffre après la virgule. Alors, si, je suis pas très loin en chiffre, mais voilà, vous l'avez chez vous.
Oui.
C'est $0,00001.
Oui. Alors, sur les quantités, ça change, ça, oui.
Eh ben exactement. Même les centièmes de centimes ou les centièmes de cents font une vraie différence sur des millions de produits. Pour l'anecdote, l'article dit même que quelqu'un chez Apple est spécialisé dans la négociation du cours de la colle, de la glu. Ben oui, ça paraît fou, mais quand on y réfléchit, quiconque a déjà regardé une vidéo du désossage d'un désossage d'iFixit, c'est bien qu'Apple en utilise énormément dans chaque produit, et donc multiplié par des millions de produits, la colle, ça compte.
C'est génial. Bon, très sérieusement, on a vu il y a 15 jours que, on l'a vu avec les résultats financiers d'Apple qu'on a suivis, on a vu que c'est efficace au final, cette gestion.
Oui, alors, clairement. Mais justement, on a l'impression que Tim Cook, depuis plus de 20 ans, ça fait 20 ans donc qu'il est entré chez Apple, il est CEO évidemment, et il a changé les équipes récemment, et donc on peut pas dire qu'il reste inactif, mais il reste toujours le logisticien en chef. Ce que je trouve un peu dommage, je l'ai déjà dit ici, je le redis, ça manque un peu de vista. Cette semaine, d'ailleurs, un tweet cruel circulait en provenance de San Francisco. Je vous le cite dans le texte. Tim Cook is a great CEO. Elon Musk is a true entrepreneur. En anglais dans le texte. C'est cruel.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et clairement, l'émoi suscité par la dernière fantaisie de Musk, pour pas dire autre chose, à base de Bitcoin, qui suscitait ce tweet, me laisse assez froid. Il faut bien reconnaître qu'envoyer des gens sur Mars ou changer l'industrie automobile dans son ensemble, c'est un peu plus sexy que se battre pour le prix de la colle. Dans un cas, on change la vie des gens. Dans l'autre, on augmente le cours de bourse et les bénéfices. Personne ne peut dire que Tim Cook est un mauvais CEO. C'est pas la question. On peut dire aussi, comme les Échos, qui justement... pour poursuivre la revue de presse, mais comme c'est pas vu d'ailleurs, j'en parle à peine, je suis fidèle à ma chronique et à mon sujet. Les Échos, cette semaine, publient un grand dossier assez bien documenté sur l'Apple Watch, qui explique justement que Tim Cook, avec l'Apple Watch, change la santé des gens. C'est pas rien, évidemment.
Ellie disait tout à l'heure qu'il faudrait la rembourser, la faire rembourser par la Sécu.
Oui, il le dit souvent, et je suis d'accord avec lui. Donc de cette façon-là, oui, petit pas par petit pas, c'est une manière d'améliorer en tout cas la vie des gens avec un produit lancé, coucou Gilles, par Tim Cook tout seul, oui. Mais tout de même, les effets sont pas complètement tangibles, et ça reste très proche de nous, très proche de l'humain. On s'élève pas vraiment en testant sa pression artérielle. Et je me demande si Cook pense parfois à la fameuse campagne Think Different, hein, qu'on aime tant, Benjamin. Ouais. Seuls ceux qui sont assez fous pour changer le monde y parviennent. Tim Cook, et c'est une justice à lui rendre, et c'est vrai, et c'est évidemment à mettre à son crédit, Tim Cook n'est pas fou. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'un peu de folie chez Apple. Est-ce qu'on en aura de nouveau un peu bientôt avec des nouveaux produits, avec de la réalité augmentée grâce à Dan Riccio dont on parlait cette semaine, ou à cette fameuse Apple Car, on sait jamais, elle volera peut-être, hein. C'est peut-être pour ça qu'il travaille depuis tant d'années. Apple nous expliquera peut-être que telle Tesla est au ras du sol alors qu'eux, ils ont choisi directement de passer l'étape d'après. Peut-être. En tout cas, moi, voilà, j'aimerais retrouver cette folie. À suivre.
À suivre, Jean-Christophe. Dans un instant, nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les amis, de commencer une série et de ne pas finir l'épisode 1. Et bah, c'est ce qui s'était passé pour moi la première fois quand j'ai essayé de regarder For All Mankind, l'une des premières séries qui accompagnait le lancement d'Apple TV+. Bah, j'avais pas accroché, mais je pense que je devais pas être dispo à ce moment-là. J'ai dû regarder le premier épisode un peu à un moment où il se passait autre chose. Et puis donc j'avais laissé tomber. Et puis en fait ces derniers jours, je suis tombé sur une bande-annonce, hein, pour All Mankind, for All Mankind sur Apple TV+. Et en voyant la bande-annonce, je me suis dit mais ça a l'air vachement bien. C'est bizarre quand même. Et donc j'ai fait un deuxième essai. Et ben voilà, ça y est, je suis foutu. j'ai mis les doigts dedans et je vais aller jusqu'au bout. Alors le pitch, hein, si vous l'avez pas encore vu, bah, il est assez simple. On est en 1969. Comme vous le savez, l'homme fait ses premiers pas sur la Lune. Le problème, c'est que dans For All Mankind, et bah, c'est les Russes qui vont en premier. Ils coiffent les Américains sur le poteau. Et le héros ne s'appelle pas Armstrong, mais Leonov. Alors évidemment, c'est une réécriture de l'histoire de la conquête spatiale, mais qui va tout changer. Et la suite est assez passionnante. Voilà, c'est donc mon coup de cœur de la semaine, For All Mankind. Tu l'as vu, François ?
Eh ben justement, en fait, quand j'ai vu ton commentaire sur le fil, je me suis fait j'ai eu la même réflexion que toi, en fait. J'ai commencé à regarder cette série, j'ai dû regarder deux épisodes et j'ai pas accroché du tout. Mais du coup, tu m'as donné envie de retenter l'aventure. Il y a la saison 2 de Dickinson qui vient de démarrer. On doit être rendu au 5e ou 6e épisode. Si tu ne l'as pas regardé, regarde-la, parce que c'est complètement déjanté.
C'est vrai ?
Oui, c'est très sympa.
Et la saison 2 de For All Mankind arrive dans quelques jours.
Oui, c'est ça.
La semaine prochaine, je crois.
Moi, je l'attends avec impatience. Parce que
tu l'as vu, Ellie, toi ?
Oui, contrairement à vous deux, moi j'avais accroché immédiatement parce que j'ai trouvé ça tellement original de réécrire l'histoire que je l'ai regardé, début, mais quasiment, je pense que ça a été la première série que j'ai finie sur Apple TV avant même Morning Show et tout ça. For My Kind.
Jennifer va être triste. Hein.
Je sais, mais elle me pardonnera car elle m'aime bien.
J'adore. L'épisode 1 est génial parce qu'on voit effectivement, on assiste au premier pas de l'homme en direct, sauf que on sait pas que c'est les Russes au départ et on comprend pas pourquoi les Américains font la gueule à ce point-là dans la salle de contrôle, mais c'est
pas spoiler alerte.
Je vais pas vous spoiler ça s'améliore à chaque épisode, il se passe plein de choses et vous verrez, des fois c'est cocasse, des fois c'est tragique, mais c'est prenant et après on lâche plus, hein. Moi quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit mais quand est-ce qu'il y a la saison 2, quoi. C'est, vous verrez.
Alors Ellie, tu as un coup de cœur toi aussi cette semaine.
Oui, absolument. Et donc, comme je sais que vous n'avez pas regardé Le Conducteur, je vais vous demander si vous savez ou si vous connaissez Pluto.
J'ai fait la blague cette semaine sur Twitter.
Oui. Oui. Donc le copain de Mickey, mais non, pas du tout. Parce que là, je vais vous parler de mon coup de cœur qui est Pluto TV. Et Pluto TV, c'est quoi ? Eh bien, bon, je pense que vous connaissez Viacom. Viacom, c'est un groupe de médias américains extrêmement important qui a plusieurs dizaines de chaînes de télé aux États-Unis. C'est un peu le Canal Plus américain, en fait, parce que ce n'est pas des grandes chaînes du style CBS, NBC ou ABC, mais c'est quand même un énorme fournisseur de contenu aux États-Unis. Et donc, à la grande surprise de tout le monde, il y a quelques jours, débarque en France Pluto.tv sous forme d'une app iOS que vous pouvez installer sur un iPhone ou un iPad, tvOS, vous pouvez l'installer sur votre Apple TV, et aussi un site web Pluto.tv. Et là, vous avez 40 chaînes de télévision 24-24, 100% en français, et à peu près un millier de films 100% en français. Et tout ça est gratuit. La qualité d'image, ouais, elle est incroyable. J'ai trouvé des films que j'adore. J'ai trouvé des émissions que j'adore. J'ai pas le temps de tout regarder. C'est juste dommage. Mais c'est super génial. Et ils ne vivent que de la publicité. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas de premium. Il y a de la pub. Elle n'est pas omniprésente. Mais je trouve ça incroyable. Et mon seul regret, c'est que moi qui regarde quasiment 99% des émissions en anglais, parce que j'aime ça, j'ai essayé de voir si je pouvais la mettre en VO ou VO sous-titré. Niet, puisqu'on est en France, tout est en français. C'est comme ça.
Dommage.
Oui, mais bon, c'est pas mal aussi. Hein. Au moins, ça permet aux autres qui ne parlent pas anglais autour de moi de comprendre.
Mais dis-moi juste, c'est quoi le truc? Parce qu'une chaîne complètement gratuite avec autant de contenu, c'est bizarre, non?
Ils disent que c'est financé par de la pub.
D'accord.
Vraiment. Et l'appli iOS est super bien faite. Il y a en plus un guide des programmes permanent qui vous permet de choisir directement l'émission que vous voulez regarder. Il y a même de la vidéo à la demande. Donc, écoute, le truc est parfait et tout est gratuit. Donc, moi, je trouve ça incroyable.
Vous avez besoin d'un deuxième pull, d'un grog ou d'un gros câlin pour vous réchauffer? Ça tombe bien parce que cet épisode 25 touche à sa fin. Merci à la team. Salut les amis, François, Élie, Jean-Christophe.
Bonsoir tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut, salut, bonne semaine.
Salut, salut à tous, salut Benjamin.
J'insiste sur Patreon, on a atteint un palier, on a vraiment besoin de votre aide. Il suffit d'€1,50 par semaine pour nous soutenir et profiter des avantages qu'on a prévus pour vous. Évidemment, ils dépendent du montant de votre soutien, mais à minima, vous avez accès aux épisodes avant les plateformes de podcast et sans pub. Ensuite, vous pouvez avoir accès à mon script de travail, au sondage exclusif Patreon et même à la version vidéo du podcast pour nous voir ou pour voir la présentation d'Elie tout à l'heure concernant Yves et le Thread. Nous voir comme à l'époque de Watch, et donc une seule adresse pour nous soutenir, patreon.com/iWeek. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou bien sûr sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Apple Podcast en nous mettant une note 5 étoiles et en rédigeant un petit commentaire, quelques mots bien à vous qui seront super importants pour donner envie à d'autres et nous aider à agrandir la communauté iWeek. Passez une très belle fin de semaine, prenez bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bon week-end et on se retrouve évidemment jeudi prochain, on sera le 18 février 2021 pour l'épisode 26 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Bisous aux filles et salut à tous !